dopo che i colleghi reggono i problemi tecnici, nous rentrons dans la phase du rapport des ateliers qui va donc chaque atelier va venir présenter ses tableaux, ses résultats, excusez-moi. Et en conclusion, Jean Fleury, qui est responsable donc du PASI de Lyon, conclura sur les conditions dans lesquelles l'évaluation des expérimentations rend possible le changement en établissement. Donc, l'atelier numéro 1, animé par Romain.
Donc là, on a innové, on a expérimenté. En fait, on a imité un modèle qui existait déjà, qui était celui de François Muller. Et il se trouve qu'on a désigné trois rapporteurs, et qui vont évidemment intervenir sur un temps court, pour rendre compte de l'atelier. Donc il va y avoir celui qui va exprimer son ressenti de l'atelier, celui qui va véritablement donner une analyse du contenu, et puis celui ou celle, je ne sais plus, qui va intervenir pour poser les questions que l'atelier n'a pas réussi à poser.
Alors, à vous. Donc, nous attendons les trois représentants de l'atelier numéro 1.
Alors, moi, je vais vous parler de mon ressenti. On a discuté beaucoup pendant notre atelier de l'ami critique à partir d'une situation vécue au PASI de Lyon. Et mon ressenti, c'est que, bon, on a été l'ami critique de l'ami critique. Et est-ce que l'ami critique de l'ami critique est un ami critique? Et on a pu assister aussi que dans les amis critiques, certains amis critiques critiquaient les amis. Si bien que finalement, l'ami critique, il vaut peut-être mieux qu'il n'y en ait qu'un seul, en fait.
Alors, vous allez tout de suite comprendre que si, avant l'échange, en groupe, les idées étaient à peu près claires, je vais avoir des difficultés à dire le contenu des échanges. Donc, je vais commencer par la commande. Donc, la commande était à partir d'une étude de cas concrète, établir des conditions efficaces d'une démarche collective visant à innover dans les pratiques d'évaluation des élèves et étendre la réflexion à l'évaluation de l'expérimentation comme vecteur de développement du projet d'établissement. Donc, pour ceci, donc, nous nous sommes séparés en groupes de 3 ou 4 pour l'étude de cas et après pour rapporter en fait les réflexions de chacun à l'ensemble du groupe. Alors, si l'étude des forces et faiblesses du cas étudié ont été, en fait, je crois, assez vite définies, on a eu vraiment du mal à s'écarter, en fait, du cas d'étude en ce qui concerne la définition, justement, des idées communes et à s'en comporter et définir effectivement des idées communes pour la démarche d'expérimentation. Alors, c'est là où justement, si c'était simple au début, ça s'est compliqué au fur et à mesure, j'ai pas mal de difficultés à faire une synthèse très contradictoire. Alors, si ce que j'en ai retenu, mais c'est plus personnel, parce qu'on en a pas discuté, hein. Donc, les idées communes pourraient être, d'abord, la première préconisation serait de prendre le temps. Prendre le temps de l'analyse de la situation, notamment, qui semble souvent faire défaut. Deuxième chose, c'est très succinct, ce serait rechercher continuellement dans la démarche d'expérimentation les ressources possibles, à chaque moment, y compris dans cette période d'analyse dont je parlais précédemment. Autre idée force, c'est que l'évaluation doit être mise en place dès le début de cette dynamique d'expérimentation, y compris justement pour une évaluation de la situation. Cette évaluation étant constante et toujours dynamique, c'est-à-dire faisant partie de la démarche d'expérimentation. Alors, après, il a été question, justement, à partir de cette analyse et de cette démarche d'évaluation, de la nécessité de se poser la question si l'expérimentation s'imposait ou pas. ou si justement le fonctionnement qui existait n'était pas suffisant. Donc, si l'expérimentation se justifiait de la nécessité de constituer un groupe d'analyse partagé, bon, il a été fait état de ceci, peut-être pas reconnu à l'unanimité dans le groupe, source de discussion. Définir à partir de ce groupe d'analyse, essayer de définir des outils, des objectifs, des outils, identifier des acteurs, alors dans quel ordre à discuter, et surtout communiquer et restituer à l'ensemble des acteurs concernés. Alors, questionnement à partir d'identification des acteurs, parce qu'on était là-dessus à la fin de notre discussion, c'est rechercher comment impliquer les différents acteurs possibles dans une phase d'expérimentation. Voilà ce que j'en ai retenu.
Alors moi, je vais simplement énumérer un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse, auxquelles on n'a pas pu répondre pendant cet atelier et qui sont vraiment liées au projet d'expérimentation sur lequel on avait à travailler. Alors, dans un premier temps, la question cette expérimentation apporte quoi à l'établissement? On n'a pas su trouver une réponse dans l'état actuel des choses qui nous étaient présentées. Comment associer les parents? Quel peut être leur rôle? Quelle est la place des élèves? Que fait-on pour le manque d'autonomie ou de motivation des profs dans ce projet-là? Parce que finalement, ils se trouvent dans la même situation que leurs élèves. Et apparemment, ça pose problème. Dans cet exemple-là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui a été expérimenté finalement. Ensuite, une question qui a émergé, comment un chef d'établissement peut-il ne pas se sentir engagé dans un projet qui existe déjà dans son établissement? Et quelle peut être la valeur institutionnel de ce projet au sein de l'établissement quand le chef d'établissement n'adhère pas. Ensuite, il peut y avoir une rémédiation pour l'équipe éducative. Dans ce cas-là, ça semblait important de l'envisager. Et puis, quel est le rôle de l'environnement institutionnel sur les expérimentations qui ont lieu dans les établissements? Est-ce qu'il peut y avoir une pression de l'environnement institutionnel à faire émerger des expérimentations à partir d'un petit pouce, d'un petit bourgeon, à vouloir trop faire émerger rapidement, on ne prend peut-être pas suffisamment le temps de poser les choses et de réfléchir à l'analyse et au diagnostic de l'expérimentation pour après construire de façon un peu plus efficace.
Dans notre académie, on parle de pépinière d'expérimentation. Non, sûrement pas. On est assez écologique, mon reste. Alors, donc, l'atelier numéro 2.
Alors, moi, j'étais dans un atelier qui était animé par Pascal Chénet, qui s'intitulait « Des points de passage obligés pour dynamiser l'expérimentation ». Alors, Pascal Chénet nous a distribué des documents, c'était un véritable atelier de travail, donc cinq documents sur une expérimentation dans un collège Ambition Réussie, avec des extraits... une carte d'identité de l'établissement, les objectifs, et puis des extraits d'entretien avec des enseignants, des assistants d'éducation et le principal du collège. Alors plutôt que de rester dans l'abstraction, je vais vous décrire rapidement l'expérimentation sur laquelle nous avons travaillé. Alors, nous n'avons pas travaillé en groupe comme c'était initialement prévu. Je pense que c'était à cause du faible nombre de participants à l'atelier. Donc, nous avons eu une trentaine de minutes pour lire et réfléchir sur les documents. Et puis ensuite, nous avons fait des tours de table. Et il nous était demandé de de dégager d'une part les points forts de l'expérimentation, les points faibles, et puis d'identifier des points de passage obligés pour évaluer et faire en sorte que l'expérimentation progresse. Donc c'est, il se trouve que cette expérimentation avait plusieurs... Alors, il s'agissait de deux phrases sur l'expérimentation. Il s'agissait pour un établissement, donc, d'avoir du personnel surnuméraire en la personne de 12 assistants pédagogiques qui venaient en supplément du personnel enseignant et du personnel d'encadrement, ceci dans un collège de 260 élèves. Et où il y avait 31 enseignants, donc une forte augmentation des personnes encadrant dans l'établissement. Alors bien entendu, le premier point fort, c'était d'avoir ce renfort dans un établissement jugé difficile, et l'obligation pour les enseignants de briser le huis clos de la classe, puisqu'ils étaient censés accueillir ce personnel surnuméraire. Ceci dit, le choix de l'expérimentation avait été fait malicieusement, puisque c'était une expérimentation où les points faibles l'emportaient largement sur les points forts. Et donc, quelques-uns de ces points faibles, c'est l'absence totale de réflexion sur ce que signifiaient ces moyens supplémentaires. Aucune définition des missions, de ce qu'on attendait de ces assistants pédagogiques, aucune communication, information sur les tâches qui les attendaient, du moins sur les tâches, information en direction des enseignants présents dans l'établissement, qui étaient de plus des enseignants soit jeunes, soit relativement inexpérimentés. Deuxième point faible qui me semble important de souligner, c'est la présence d'objectifs certes évolutifs pendant les trois années d'observation. Enfin, c'est pas vraiment trois années d'observation, mais on a des objectifs à trois moments différents, bien que l'équipe INRP apparemment y soit allée que une année ou deux ans, je ne sais plus. Mais les objectifs sont très vagues, n'ont pas fait l'objet de discussions à l'intérieur de l'établissement. Il n'y a pas eu de consensus sur les objectifs. Ils ont été finalement plaqués. Ce sont des objectifs qui sont conventionnels, qui sont politiquement convenables, mais ça s'arrête là. Hein, il y a pas de, on rentre pas dans les objectifs. Donc le résultat, c'est que finalement, on a une expérimentation qui a un statut flou, où il y a une juxtaposition de personnes isolées, il n'y a pas d'intégration de ces personnels surnuméraires, et qui n'ont pas de professionnalité, et on a abouti à une espèce d'inversion des rôles, puisque ce sont les assistants d'éducation qui sont les moins professionnels, puisqu'ils ne sont pas des enseignants, qui vont s'occuper des élèves en difficulté, alors que les enseignants qui sont titulaires et qui ont été formés vont finalement s'occuper des élèves qui sont le moins en difficulté. D'autre part, autre point très faible, défaut total de leadership, tant chez les enseignants que chez le chef d'établissement. Alors, la question que l'on s'est posée, c'était finalement, est-ce qu'il s'agissait réellement d'une expérimentation? Est-ce que le fait d'ajouter du personnel à un établissement, est-ce qu'on peut considérer ça comme une expérimentation ou pas? Bon, au-delà de cette question qui est essentielle, il me semble, d'autres questions, donc les points de passage obligés ont été rapidement d'atelier pointés. Donc le problème des objectifs, nécessité de définir des objectifs et surtout de définir qui. Quelle est la cible de ces objectifs? Parce que là, on a l'impression, sur les objectifs affichés, que ce sont des objectifs qui ont été faits en termes d'élèves, accroître l'autonomie des élèves, et en fait on se rend compte que l'objectif caché, c'était comment intégrer ces personnels. Donc on a deux cibles, on ne sait pas trop quelle est la cible, donc il fallait peut-être savoir si c'était en direction des élèves ou en direction des enseignants ou des assistants. Une réflexion préalable aurait dû être menée sur la mise en adéquation des ressources avec l'allocation de ces ressources ensuite. Et puis ensuite, une absence totale de points d'évaluation, pas d'évaluation du tout dans ce dispositif. Et à aucun moment, ce qui péchait. Et puis, pas non plus de travail sur l'information et la discussion et la mise en commun d'une réflexion commune sur le travail en cours. D'où ce qui ressortait en face, c'était que les instructions, les objectifs demandaient à être traduits pour être opérants, qu'il ne suffisait pas d'énoncer des objectifs nobles mais vagues, et qu'il fallait ensuite qu'il y ait toute une série d'opérations de traduction pour que ces objectifs soient compris et atteints. Donc pour l'atelier 3,
qui était mené par Marie-Claire Thomas sur évaluer l'expérimentation, quelles questions, quels domaines, Marie-Claire nous a présenté un travail du PASI Lyon à partir de 3 cas d'expérimentation dans des établissements 2005 à 2009. Préalablement à la présentation d'un dispositif d'évaluation d'un processus d'expérimentation, on nous a présenté les 5 questions qu'on doit se poser peut-être. Première question, y a-t-il expérimentation ou pas expérimentation? Quel est le degré de prise de risque d'une équipe qui se lance dans l'expérimentation? Deuxième question, à quel stade se situe l'expérimentation? Troisième question, qui est l'évaluateur? Quatrième question, quel domaine évaluer? Et cinquième question, quels outils? Ensuite, Marie-Claire nous a présenté le dispositif proposé donc par le PASI de Lyon, qui est un dispositif très élaboré, qui nous a fait beaucoup réfléchir et que l'on a beaucoup questionné. Ce dispositif nous a été présenté à partir de 3 documents et d'un schéma sur lequel Jean parlera tout à l'heure. Premier document, c'est un cahier des charges qui s'apparentait pour nous à Nantes au dossier d'inscription d'une expérimentation. Ce cahier des charges, c'est l'engagement, c'est le contrat, la contractualisation de l'équipe et de l'institution. Le deuxième document, c'est un tableau. Un tableau pour aider à faire l'analyse de l'expérimentation. Un tableau à multiples entrées. C'est pour ça qu'on a eu du mal dans un premier temps à y rentrer. Mais qui nous donne énormément d'items pour balayer le champ et de l'expérimentation. Et enfin, un schéma avec un effet de feedback. En 3 temps, l'entrée dans l'expérimentation avec les diagnostics, les objectifs, le moment de l'emprise et le moment de l'impact. Cette première partie présentant l'analyse du processus de l'expérimentation et la dernière partie analysant les écarts entre ce qui était prévu et ce que l'on constate. Alors, c'est quelque chose qui nous a posé beaucoup de questions. Et au final, alors on a préparé des questions pour la table ronde, pour le groupe, pour demain. Première question, comment traite-t-on l'obligation de rendre compte de l'évaluation des expérimentations, puisque à partir du moment où il y a expérimentation, nous devons rendre compte à l'institution?
Deuxième question, peut-on évaluer de la même manière, avec les mêmes outils, les expérimentations qui ne sont pas au même stade? Troisième question, l'évaluation ne doit-elle pas se construire en même temps que se construit l'expérimentation? Et quatrième question, l'évaluation du processus n'est-elle pas aussi importante que celle des résultats? Voilà.
Merci, merci beaucoup pour cette tâche qui n'est pas facile de rendre compte des ateliers. Donc là, je vais faire un petit point de, je dirais, de situation par rapport à ce qui a été dit dans les comptes rendus. Et puis, je vais aussi vous donner quelques éléments de réflexion sur expérimentation, évaluation. J'ai un quart d'heure. Ça va bien le coup que je vienne de la Guyane, tiens. Parce que j'ai quand même fait 7000 km pour venir jusqu'à pour vous rejoindre. Non, c'est justement, je me quitte. Enfin, on ne sait pas, remarque. Bien. Oui, alors un quart d'heure. Bon, ben, d'accord, je vais aller très vite. Donc l'expérimentation, alors j'ai repéré trois ou quatre choses dans ce qui a été dit qui me semblait intéressant. Est-ce que l'expérimentation s'impose ou pas? Bon, est-ce que il faut faire de l'expérimentation à tout bout de champ? Est-ce que quand ça marche, c'est la peine d'en faire? Bon, ça c'est une question qui me semble importante. Autre élément que j'ai remarqué, c'est... que faire du manque d'autonomie et de motivation des professeurs? Ils sont en expérimentation, mais faut les traîner, faut les solliciter, etc. Et il n'y a pas une énergie énorme. Et puis enfin, objectif affiché, objectif caché dans l'expérimentation. Alors j'aurais pu, parodier un peu mon collègue François Muller, qui a le talent de faire des accroches. J'aurais pu faire un exposé qui se serait focalisé sur deux titres. Expérimentation, donc l'expérimentation entre polysémie et bredouillage, premier titre. Et le deuxième titre, l'évaluation, la quête du Graal, les chevaliers de la table ronde que nous sommes tous. Hein. Voilà, ça me semble important de localiser ça comme ça. Alors je vais le faire très rapidement, puisque le temps est très compté. L'expérimentation. Alors, ce mot expérimentation, c'est un mot qui est, je dirais, à la mode. Hein. On en entend beaucoup parler. Comme tout phénomène à la mode, il veut dire plein de choses. Et justement, ça me paraît important de regarder ça pour savoir ce que l'on travaille ensemble. J'ai, comme ça, fait une liste de quelques mots, quelques propositions concernant l'expérimentation. L'expérimentation, ça peut être quelque chose qui permet de dynamiser un établissement, de faire travailler un établissement. Ça peut être aussi quelque chose qui permet de favoriser les bonnes pratiques. Ça peut être aussi pour trouver de nouvelles modalités de fonctionnement dans le système éducatif. Ça peut donc être pour explorer les pistes de changement. Ça peut préparer des évolutions. Bon, on voit bien que l'expérimentation, là, Elle est de différentes natures. Expérimenter à la demande d'un établissement, une équipe d'établissement qui veut faire un projet d'expérimentation, par exemple pour lutter contre le décrochage des élèves, avec un SAS, avec tout un ensemble d'activités qui permettraient de motiver les élèves. Bon, c'est une chose. L'expérimentation du livret de compétences du socle commun, de connaissances et de compétences, c'est une autre chose. L'expérimentation en lycée qui est en train de se mettre en œuvre à la demande de notre ministre, c'est encore une autre chose. Voilà, on pourrait prendre beaucoup d'exemples qui montrent que l'expérimentation a un spectre très large. Alors, en fin de compte, il me semble que pour savoir de quoi on parle, déjà, il faut qu'on se fixe une chose pour... penser l'expérimentation, c'est que l'expérimentation est forcément reliée à l'autonomie de l'établissement. Ça, c'est, à mon avis, un point incontournable sur lequel il faut qu'on soit d'accord. L'expérimentation dont on parle, hein, en tout cas, c'est l'autonomie de l'établissement. Et puis, d'autre part, l'expérimentation, ça doit être aussi quelque chose qui fait bouger les lignes, qui, comme on l'a dit dans l'atelier, fait prendre des risques, et autrement dit, qui doit être suffisamment conséquente. Pour moi, il ne peut pas y avoir d'expérimentation s'il s'agit simplement de travailler autour de la classe, s'il s'agit simplement de travailler autour de la discipline, parce que là, on aurait simplement, par exemple, un atelier de pratique scientifique, c'est pas de l'expérimentation pour moi, hein, même si c'est fait d'une façon importante et intéressante. Il faut vraiment que ça fasse bouger les lignes. Et d'ailleurs, le législateur, dans l'article 34, a bien noté ça, que ça doit aller jusque dans les disciplines. Donc, l'expérimentation, ça doit interroger, pour moi, la forme scolaire. Ça doit forcément l'interroger, ça doit remettre en cause un certain nombre de processus qui caractérisent la forme scolaire. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression de la forme scolaire, c'est... Pardon ?
Elle est lyonnaise.
Elle est lyonnaise, tout à fait. C'est un sociologue de l'éducation lyonnais, Guy Vincent, qui avait mis sur le marché des idées ce mot, la forme scolaire, et ça me paraît bien, parce que la forme scolaire que l'on connaît, c'est classe, groupe classe, notes, conseil de classe, orientation, chronologie annuelle, etc. Bon. Donc il me semble que l'expérimentation doit forcément interroger la forme scolaire. Par exemple, alternative au redoublement. Par exemple, le fait qu'il y ait des cycles d'acquisition de compétences, etc., etc. Il n'y a pas pour moi d'expérimentation si ça n'interroge pas la forme scolaire. Mais on voit bien que cette interrogation de la forme scolaire ne va pas de soi. Parce que si on l'interroge, ça a des implications extrêmement fortes en termes de conséquences. Faire travailler différemment des élèves, c'est très impliquant par rapport aux familles, par rapport à leur orientation, par rapport à tout un ensemble, par rapport au système dans lequel les élèves vont évoluer. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est là où l'évaluation arrive et l'expérimentation doit forcément être accrochée à l'évaluation. Je ne dis pas l'évaluation accrochée à l'expérimentation, c'est plutôt l'expérimentation accrochée à l'évaluation. Donc l'évaluation, là aussi, c'est un mot qui peut avoir énormément de variables, de variétés. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que l'évaluation, c'est quelque chose qui donne de la valeur. Hein, c'est au sens étymologique du terme. Évaluer, c'est donner de la valeur ou en retirer. Évaluer, c'est aussi regarder. Alors, toute expérimentation doit être regardée et évaluée, ça c'est clair. Mais alors, comment et par qui? Et c'est là où il faut qu'on soit extrêmement attentif, qu'on est très perturbé par, je dirais, une sorte de rigidité presque tectonique entre des demandes d'institutions qui sont très balisées. Il faut toutes les années fournir des comptes rendus d'évaluation des expérimentations. Le Haut Comité de l'école statue sur les expérimentations. Ça, c'est pour le côté institutionnel. Et puis sur le côté de l'établissement, ça bredouille complètement. On le voit dans les ateliers, dans l'atelier numéro 2 surtout, où quelle évaluation peut-on faire à part le fait de dire que c'est vraiment nul et que ça marche pas, quoi, hein. Bon. Donc, si on dit ça, ça va pas, évidemment. Parce que toute expérimentation doit forcément commencer par être nulle et ne pas marcher. Pour petit à petit prendre de la hauteur. Parce que la question aussi de l'expérimentation, c'est que ça ne peut pas sortir tout armé, comme on dit, de la cuisse de Jupiter. Ça ne peut pas être quelque chose qui est automatiquement fixé et parfaitement apparent sans aucun élément caché. Donc toute la question, c'est de savoir comment on fait apparaître une expérimentation par le processus d'évaluation. Et je crois que là aussi, ça doit être clairement notre réflexion, enfin c'est ce que je pense utile comme réflexion. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'évaluation externe, il ne faudrait pas dire qu'il faut que ce soit seulement les acteurs qui évaluent, parce que bon, moi je suis très réservé par rapport à une sorte de rousseauisme qui donnerait toute la bonté aux acteurs et toute la méchanceté à la société. Je crois que les deux sont parfaitement doivent être parfaitement liés. Par contre, il faut identifier les rôles des uns et des autres. Si on n'identifie pas les rôles des uns et des autres, c'est là où il y a toute une des risques très forts de perturbation et de dévalorisation. Donc identifier les personnes, identifier les temps et surtout outiller les personnes et tous ceux qui travaillent. Sur Lyon, ça a été notre volonté permanente d'outiller à la fois les équipes et d'outiller à la fois les équipes et le système. Outiller les équipes comment ? En leur donnant des outils de méthode, par exemple le cahier des charges. Pour évaluer, il faut savoir ce qu'on évalue. Donc il faut clairement poser ce que l'on va mettre en œuvre. Donc on les aide à clarifier ce qu'ils mettent en œuvre, à clarifier leur problématisation. Bon, ça c'est un premier temps. Pour l'institution, on travaille aussi à qu'est-ce que c'est qu'évaluer les expérimentations. On est en train de monter un groupe d'évaluation, d'abord en partant des corps d'inspection, d'évaluation des dispositifs. Parce que là, il y a effectivement des méthodes et des outils qu'il faut que l'on fasse progresser. Voilà, très, très rapidement brossé, l'idée principale, et ça sera une conclusion au moins provisoire, c'est que l'expérimentation, si on le prend comme ça, ça n'est qu'un mot. Pour que ça devienne une réalité, il faut savoir dans quelle réalité on la localise et savoir quels sont les enjeux qu'on lui donne. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est de dire que cette réalité-là, on ne peut pas la traiter uniquement formellement, il faut la traiter pragmatiquement, pratiquement. Et pour ça, d'abord, développer des outils et ensuite accepter justement toutes les errances, accepter le travail qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'à Lyon, on essaie de porter une logique de ce qu'on appelle des conseillers en développement, qui puissent avoir une capacité à aider les équipes. Et on a fait dériver le terme, on parle plus d'accompagnateur, on parle de conseiller en développement, pour marquer justement cette idée qu'il y a une volonté d'outiller et une volonté de développement. Voilà, donc ça c'est une volonté. Je pense que l'expérimentation, moi je vis ça depuis très longtemps sous le couvert innovation-expérimentation, c'est pas facile du tout, hein, c'est extrêmement difficile même. Les logiques d'établissement sont très largement peu disposées pour l'expérimentation réellement. Les emplois du temps des professeurs ont du mal à se rencontrer, les charges des chefs d'établissement sont extrêmement lourdes et un chef d'établissement cherche surtout à ce que son établissement tourne. Donc tout ce qui est facteur de perturbation, il n'est pas tout à fait tout le temps preneur. Les corps d'inspection sont aussi sur de multiples champs et ils sont intéressés, mais ils ont une certaine difficulté à s'investir dans un processus. Et en plus, l'expérimentation, ça interroge énormément avec très peu d'outils pour répondre aux interrogations. Un tout petit exemple, si vous décidez de diminuer un horaire d'une discipline parce que vous faites qu'il y ait un enseignement qui soit fait un peu différemment avec d'autres personnes, que va penser l'inspecteur et que peut-il penser? Alors c'est la question de la dérogation, mais qui établit la dérogation? Alors il y a un processus, l'autorité académique peut ou ne pas donner la dérogation, mais qu'est-ce qui fonde la dérogation par rapport à un horaire de discipline, par exemple. Donc vous voyez qu'on est confronté, si on va vraiment dans la logique de l'expérimentation, parce que à la limite, on peut continuer éternellement en faisant un petit peu de choses en surface, mais bon, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Si on veut approfondir cette logique d'expérimentation, ça demande une réflexion collective extrêmement forte. Et c'est pour ça que ce séminaire me semble déjà important à ce niveau-là. Voilà, j'espère avoir respecté à peu près le temps.
Un grand merci à Jean qui a fait une prouesse et qui nous laisse un appétit pour la table ronde de demain où tu pourras parfaire tout ce que tu viens de nous indiquer. Mmh.